Alors, différence entre émotion et sentiment. Anne-Marie. Donc, j'ai cru comprendre que nos émotions sont un fait, mais que ce sur quoi nous pouvons travailler, ce sont les sentiments ressentis lorsque nous vivons ces émotions en évitant d'émettre un jugement. Je souhaiterais que tu approfondisses ou que tu remettes tout ça dans l'ordre. Alors, effectivement, les émotions sont des choses qui surgissent en vous. Elles sont en fait les indicateurs de votre élévation, enfin, je veux dire de votre résistance ou non au courant de la source. La source, vous savez, elle envoie la sauce partout, dans toutes les directions. Donc nous baignons continuellement dedans. Alors certains scientifiques parlent de neutrinos, de tout ça, mais en fait, on baigne en permanence dans un espèce de milieu vibratoire qui nous arrose à tous les niveaux, au niveau atomique, subatomique, cellulaire, tout, à tous les niveaux. Donc, baignant là-dedans, à chaque fois qu'il y a une résistance, une perturbation, ça crée un remous, et ce remous s'appelle une émotion. Donc, vous n'avez pas de contrôle direct sur les émotions en tant que remous, mais vous pouvez supprimer ce qui crée le remous. Donc en clair, vous pouvez effectivement, et c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens qui sont de plus en plus en 4D, c'est qu'ils sentent que plus ils sont en paix intérieure, c'est-à-dire moins de jugement déjà, c'est ce que j'appelle le paix du mental, et plus ils auront la paix du cœur. En clair, plus t'es cool, moins tu te poses de questions, c'est-à-dire moins tu juges, moins tu cherches de réponses, et moins tu auras d'émotions. Parce que tu seras beaucoup plus dans la fluidité avec toi-même et donc dans le courant de la vie de la source. Alors certains parlent de l'onde de vie. C'est tout simplement que on redécouvre. C'est comme si la mer nous envoyait une vague. Alors la mer était plate et d'un seul coup il y a une grosse vague plus haute que toutes les autres qui se prend pleine tronche. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une vague. La vague a pour but de te redresser et te mettre dans le sens du courant, tout simplement. Donc, être touché par la fameuse onde de vie, hein, ou du manteau bleu de la grâce, j'aime bien tout ce côté poétique, mais qui en fait, dans la réalité, enchante les neurones. Mais ce qui est important, c'est surtout que ça enchante votre état d'être. Donc, se faire redresser, entre guillemets, eh bien, va créer des remous et donc des émotions. En clair, dans les articles qui vont paraître cette semaine, vous allez découvrir, puisque je réponds exactement à cette question, que vos émotions sont en fait le gouvernail, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes en train d'élever votre vibration ou de la rabaisser. Donc, l'émotion elle-même, vous ne pouvez rien faire, sinon la regarder pour ce qu'elle est, et donc d'agir en conséquence. Mais vous pouvez agir directement sur la quantité d'émotions. Car plus vous supprimerez les sources de résistance, et moins vous aurez de remous, et donc moins vous aurez d'émotions. Ce qui amène, bien sûr, cet état d'être, de croire qu'on est en détachement, qu'on est en recul des choses. On fait les choses, mais on ne les sent plus, et pour cause, puisqu'il y a de moins en moins de résistance à cette onde de vie, à cette vibration de vie qui nous anime. Donc, les sentiments ressentis, un sentiment ressenti, c'est tout simplement la traduction d'une émotion que vous allez faire et qui va donc passer à travers tous vos filtres mentaux. Donc, le ressenti même du corps vous dira, suffira, pour vous dire, est-ce que je suis en train, est-ce que cela a abaissé ma vibration ou est-ce cela a augmenté? Alors c'est simple à connaître la différence, c'est que si ça augmente votre vibration, vous allez chanter, être en joie, vous sentir bien, et si cela abaisse votre vibration, ben, vous allez avoir des questions. Donc, des doutes, des inquiétudes et des demandes de compréhension. Clair, augmenter sa fréquence va obligatoirement désactiver le mental. La 4D, c'est vivre la vibration, être la chose. Alors que le mental, lui, il est à côté de la chose, en train de regarder et d'analyser et de comparer et de juger. Voilà, donc les émotions, c'est une conséquence, entre guillemets, de vos résistances. Et donc moins vous résisterez, et moins vous aurez d'émotions, et donc vos sentiments deviendront de plus en plus rares. Car vous serez. Alors, une question sur la couleur de coton la brodeuse. Bonjour, je n'ai pas compris pourquoi dans ton avant-dernière vidéo, tu dis quand on marie le bleu avec le rouge, on obtient du vert. Bon, ça c'est bêtement physique. Si par exemple, je prends dans un plan, vous savez, une feuille de papier, et je dis voilà, je prends deux traits que je vais mettre à 90 degrés l'un de l'autre et qui auront une certaine longueur. Je dis voilà, j'ai un côté A, j'ai un côté B. J'ai une infinité de possibilités de fabriquer des rectangles, ayant toutes les longueurs A et toutes les longueurs B possibles. Il y en a une infinité. Et il n'y aura qu'un seul cas où le côté A sera égal au côté B. Et il est tellement spécial ce cas qu'on a appelé ça un carré. Donc un carré appartient bien au rectangle. On verra que les rectangles appartiennent à une famille encore plus vaste qu'on appelle les parallélogrammes. Donc on voit que le carré en lui-même est unique. Et donc va posséder des propriétés très claires. La longueur A est égale à la longueur B. Eh bien, quand vous regardez un arc-en-ciel avec les sept couleurs, eh bien, vous êtes dans ce cas particulier. C'est un cas particulier. Car si vous prenez, je dirais, un cristal qui n'est pas taillé avec un angle particulier, il ne vous donnera pas les sept couleurs. Le cas du cristal qu'on montre toujours avec le rayon arc-en-ciel est le cas particulier qui vous permet de voir cette couleur. Dans la réalité, si vous modifiez l'angle du cristal, je ne dis pas l'angle d'approche du rayon dans le cristal, mais l'angle de réflexion qu'il y a entre les deux faces du cristal, eh bien à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura deux faisceaux particuliers. Il y en aura un bleu et il y en aura un rouge. Mais il n'y aura absolument pas de vert. La raison en est très simple. Le rayon bleu correspond au ciel, le rayon rouge à la matière. C'est simplement quand les deux se rencontrent qu'il y a des franges d'interférence qui vont créer le vert. Voilà pourquoi là, la planète est verte. Que le végétal est vert. Car c'est la rencontre entre le ciel et la terre. Donc, c'est purement physique. Vous pouvez regarder ça dans des vidéos sur Internet. Regardez, diffraction d'un rayon lumineux. Mais dans un prisme. Dans un prisme à angle variable. Et vous verrez. Donc c'est de la physique pure et dure, tout simplement. Alors, il y a Cécile aussi qui dit, voilà, bonjour Laurent, je n'ai pas de questions, mais une idée me vient. Si le cœur t'en dit, nous pourrions profiter de la réunion de ce soir pour faire ensemble une médi-respiration adamantine. Alors, là aussi, c'est un processus tout à fait intéressant, une idée parmi d'autres, en disant, si nous nous syntonisions, c'est-à-dire si nous mettions tous à faire la même respiration en même temps, cela ferait forcément quelque chose du bien quelque part. Je suis parfaitement d'accord. Sauf que cette respiration, médi-respiration, eh bien, va avoir des effets différents selon les uns et les autres. Donc, j'ai eu l'occasion de regarder ça par rapport à d'autres techniques, à d'autres choses. Effectivement, il y a un effet résonance qui se passe. Aujourd'hui, on peut passer par ce type de processus, mais il y en a un qui est beaucoup plus fort que tout ça, et qui est valable en permanence, et qui demande aucun exercice particulier. C'est celui d'être simplement soi. Souvent, quand on est sur le chemin de l'élévation, entre guillemets, comme je le disais, il y a le palier de la 3D, puis après de la 4D, enfin il y a des différents paliers intermédiaires, on va dire. Et arrivé à certains paliers, il n'y a plus besoin d'aucune technique. Donc quand on me montre, soi-disant, un grand gourou, un grand maître assis en train de méditer, je me dis s'il médite encore et qu'il a besoin d'un processus, c'est qu'il n'est pas si avancé que ça. Parce que le plus grand des processus de méditation que vous puissiez avoir est simplement d'être purement conscient de ce que vous êtes à chaque microseconde, mais pas conscient simplement dans le sens mental du terme. C'est que vous êtes simplement l'un. Et c'est la plus grande de toutes les méditations que vous puissiez offrir. Parce que selon les articles que j'ai écrits pour bien sûr cette semaine, eh bien vous verrez ce que c'est, on va dire, la loi de l'attraction. Et je vous parlerai un peu plus tard de la loi de la résonance. Si vous voulez attirer, on va dire, la paix intérieure et l'harmonie en ce monde, soyez-le, tout simplement. Quand on est en 3D, on organisera des méditations de groupe afin de tous se donner un petit coup de main. Mais personnellement, je n'ai aucune aspiration à faire des choses de groupe et de suivre des techniques. Ces techniques sont des marches. Mais pourquoi faut-il que tout le monde aille sur la même marche afin d'améliorer les choses? Celui qui est sur le palier au-dessus fera beaucoup plus tout seul sans rien faire qu'un grand nombre réunis sur une marche trois paliers plus bas. Donc, c'est la différence entre celui qui a une petite cuillère et celui qui a la pelleteuse pour remplir un camion, quoi. Faudra mettre des milliers de gens à la petite cuillère pour remplir le camion, alors que l'autre, il dira, il regardera la montagne, il dira, il n'aura même plus besoin du camion, il dira, regarde la montagne, t'as vu, ça y est, maintenant, elle est déplacée. Alors, faites pas chier avec votre petite cuillère. Je dis pas ça dans un sens négatif du terme. C'est simplement pour vous faire comprendre que un processus, une méthode, est très intéressante et elle bénéficie, bien sûr, à un grand nombre de gens. Donc, tous les gens qui sont sur la même longueur d'onde, sur la même marche, si bien sûr ils font tous la même chose en même temps, cela va leur profiter à eux. Alors bien sûr au collectif en même temps, nous sommes bien d'accord. Mais cela n'implique nullement que d'autres personnes étant sur d'autres marches se doivent d'une certaine manière se mettre à ce niveau, entre guillemets, qu'ils soient au-dessus ou en dessous, on s'en fout. Et donc c'est en cela que je n'impose en rien. Pas que je n'impose ou que je ne cherche pas à dire voilà ceci, voilà cela, parce que je me mettrais à ce moment-là dans le cas du gourou qui commande et qui peut donc avoir d'une certaine manière une demande de domination auprès des gens. Chacun est maître chez lui. Je n'ai pas de, je dirais, de demande ou d'obligation à demander aux gens quelque chose. Non. Ça fait pas partie de mes vibrations, entre guillemets. Donc, ce soir, je vous partage ce que je pense par rapport à certaines questions. Mais chacun en fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est pas mon problème. Donc, voilà pourquoi d'une certaine manière, je ne réponds pas positivement dans le sens en disant, ah, et si on se faisait une méditation? Parce que ça appartient encore à une certaine forme de dualité, disant que si on l'a fait, ça sera toujours mieux pour améliorer les choses. Quand on se situe d'après la loi de l'un, il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas de choses à corriger. Donc on ne peut pas dire, prendre position en disant, ouais, bon, on va tous faire une méditation ensemble, et donc comme ça va améliorer le truc. Rien à corriger. J'espère que Cécile, tu comprends que arrivé à un stade, il n'y a plus à vouloir agir en commun, parce qu'en fait, la plus grande force que l'on possède est d'exprimer notre unicité. Si chacun exprime son unicité et sa vibration, alors le monde sera parfait. C'est mon point de vue. discutable en 3D et je dirais indiscutable en 5D. En 5D, il n'y aura aucune communication, il n'y aura aucune obligation demandée par quelqu'un pour une méditation XYZ. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans certaines canalisations, quand des entités se regroupent, entre guillemets, pour causer ou pour échanger, eh bien en fait, chacun s'assoit et chacun va se syntoniser avec le reste de la salle, naturellement et sans effort. Et il n'y aura personne qui dira « Bon, fermez les yeux, prenez une bonne respiration et maintenant visualisez ceci ou ceci. » Non, ça se fera naturellement, car la voûte, la clé de voûte de la création est dans la loi de l'attraction et de la résonance. Donc, automatiquement, les gens qui, on va dire, partagent la même attraction, se verront naturellement rentrer en résonance. Et ceci, sans qu'on leur demande, puisque ça sera la chose la plus naturelle qui leur viendra du cœur. Il n'y a donc aucun pouvoir sur autrui. Il n'y a qu'une volonté individuelle à se coordonner sur une fréquence qui est partagée. Voilà. Donc tous les gens qui m'écoutent ce soir sont sur cette fréquence, celui du partage. Mais je n'ai aucun ordre, aucune demande en quoi que ce soit, envers quiconque. C'est ceci le respect, on va dire, de l'unicité et aussi de démontrer que les mécanismes de la dualité ne doivent pas rentrer en ligne de compte à ce niveau parce que cela impliquerait automatiquement, je dirais, un déséquilibre amenant, bien sûr, le mental ego à faire toute sa mascarade. Donc, j'oblige personne et je demande à rien à personne. Voilà, c'est, je pense, ce que vous arriverez à faire au fil du temps. Le plein respect. Aucune contrainte. Aucune condition. Alors, dernière question écrite dans ce document. Comment tu vas, le devenir du blog? C'est de Nénuphar. Si tu peux aussi nous donner ce soir de tes nouvelles, cela nous ferait bien plaisir. Et aussi, comment tu vois l'évolution de ton blog? Bah écoutez, c'est pas toujours évident de donner de ces nouvelles parce que les choses bougent, changent, s'adaptent, enfin s'adaptent. C'est plutôt moi qui dois essayer de m'adapter, on va dire aux choses. Mais il y a effectivement, je dis des hauts et des bas, mais en fait tout est relatif parce que mes bas, en fait... sont loin d'être aussi bas que beaucoup de gens, dans le sens où, quand moi je me sens bas, eh ben, même quand je suis à ce stade, les gens ils disent, mais vraiment, il est joyeux ce gars. Donc, je dirais, je continue à être à l'écoute. Je continue à suivre la musique. Parce que je suis comme vous tous, je suis encore fait de carbone. Et il y a donc des rectifications, on va dire, matérielles qui se font, qui entraînent automatiquement des variations d'état d'humeur. Et il m'arrive des fois d'être un peu grognon, d'en avoir marre que les choses traînent, de dire voilà, ça y est, on s'en ramasse encore une. Mais bon, après tout... Si on est au bord de la plage en train de se baigner, on va quand même pas hurler sur la mer parce qu'il y a des vagues. Parce qu'en fait, on est venu, on va dire, pour les vagues. Alors, ben, si on s'en prend une de travers et qu'on bouffe un peu de sable, ben, on se dit, ouais, bon, d'accord, là je me suis fait avoir. Ok, on va y retourner et là j'espère que je saurai mieux l'apprendre. Hein? Donc, en même temps, de ce côté-là, bah, pour les blogs, ils deviennent ce qu'ils deviennent. Je ne recherche en aucun cas à être plus connu ou à améliorer mon audimat, ou je m'en fous. parce que de toute façon, ce n'est pas ce que je ferais en termes de pub ou ce que je projetterais, désirer avoir en termes d'audimat qui va changer le monde. Ça ne sera que de l'ego projeté. Et donc, ça, je m'en fous. Donc, s'il y a des articles sur éclairage, c'est parce qu'on me pose des questions. S'il n'y a plus de questions, ben, il n'y a plus d'articles. Concernant les articles sur 5D, 6D, ben, ça y va en fonction de mes vagues, on va dire, de mes vagues, pas d'inspiration, mais plutôt de possibilité d'écrire. Parce que, il y a des fois, on me retire absolument toute énergie pour écrire, en termes d'articles, hein, je parle. Pour 3, 4, 5D, eh bien, les articles repris de BVI, de booster votre influence, sont toujours en continuation, simplement, et ça passe beaucoup plus maintenant dans le développement personnel. Et donc, cela devient bien sûr beaucoup plus en rapport avec les énergies de maintenant. Il est clair que tout ce qui concernait la période management qui a été écrite il y a plus de 5 ans sont de moins en moins, je dirais, d'actualité pour les illuminés qui viennent lire. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens qui sont encore lourdement en 3D, ces articles peuvent être encore intéressants. Mais c'est vrai que quand je les ai relus pour faire les e-books, j'avais l'impression que je remettais les pieds dans un truc de préhistoire. La seule chose qui m'a surpris, c'était de voir que tout ce que je vous raconte maintenant, je le racontais déjà, simplement avec un autre vocabulaire. Un vocabulaire plus 3D dans le sens professionnel du terme, hein, c'est-à-dire du boulot, de tout ça. Mais sinon, il y avait des bonnes vibrations. Enfin, il y a toujours des bonnes vibrations dedans, mais je redécouvre aussi certains articles de développement personnel qui sont, je dirais, des fois plus explicites que certains de mes articles aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je me réfère de plus en plus à certains de ces articles, parce que ça décrit très 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 bien des choses qui aujourd'hui amène, je dirais, des éléments de compréhension plus facilement. Attendez, je vais regarder à l'écran. Alors, Brigitte vient de me dire qu'il y a une dizaine de questions par le chat. Alors, j'aimerais bien qu'elle m'indique les questions, parce que sinon, je vais avoir un souci pour visualiser le chat. Excusez-moi, mais j'ai plusieurs écrans, c'est pas toujours. Brigitte, help, 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 parce que j'aimerais savoir où sont les questions, à moins que tu me les copie-colle. Donc, Colibri, quelle est la vision 4,5D du pape et des gouvernements? Eh ben, c'est simple. La vision, on va dire du pape, on va commencer du pape. La vision 4D et 5D du pape est relativement simple. En 4D, il va y avoir une fuite des fidèles à la vitesse grand V et en 5D, il n'existera plus. Donc sa vision n'est pas forcément très positive. Et donc, autant Jean-Paul II avait, je dirais, un degré d'ouverture étonnant, autant son successeur a été en fait l'inverse. C'est-à-dire que le pape actuel a été choisi parce que lui revenait à la dureté des écritures, afin de compenser tous les écarts, entre guillemets, de Jean-Paul II. Donc aujourd'hui, le pape actuel est plutôt quelqu'un qui essaye de ramener de l'ordre dans la maison en recollant aux écritures, celles qui ont été trafiquées, bien sûr, alors que Jean-Paul II était beaucoup plus dans l'ouverture vers ce qui vient à nous. Donc, quelque part, bien, comme on dirait à autre, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Alors, c'est à eux, et donc au pape en particulier, et on le verra, que la suite des événements donnera raison si il faut continuer à vivre dans le luxe du Vatican et attendre et regarder les autres crever, ni plus ni moins, parce que c'est à peu près ça. Et de donner la bonne parole dans toutes les langues du monde, c'est vachement génial. Mais en fait, qu'est-ce qui est important? C'est qu'ils comprennent qu'il faudrait ouvrir un peu, je dirais, ce qui est planqué au Vatican et de rendre la vérité. Mais bon, aura-t-il le courage? Ça, j'en sais rien. Parce qu'il est un petit peu coincé comme Obama, c'est-à-dire que tous ceux qui l'entourent, au moindre pas, il se fera flinguer. Enfin, flinguer. Pas forcément physiquement. Mais. Enfin bref, donc ils sont pas libres de leur mouvement du tout. Donc bon, c'est leur problème. Et je pense que s'ils se sont incarnés et s'ils vivent ça, c'est qu'il y a une raison. Ça fait partie de leur karma à eux aussi. Donc concernant les gouvernements, ils sont bien sûr pleinement au courant. Croyez-moi que les services généraux, les renseignements généraux, tout ça, suivent de très près ceux qui causent. Et croyez-moi que Ben Laden, ils ont tous leur Ben Laden dans la tête, hein, entre guillemets quoi. C'est-à-dire que quand ça va commencer à se corser, il est évident que les gens qui sont les perturbateurs, entre guillemets, seront regardés et auscultés de très près. Voilà pourquoi je souris beaucoup quand les gens me traitent de gourou ou qu'on voit sur Google Laurent Duro secte, parce que bah, il n'y a pas de secte, parce qu'il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de clan, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de fans, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de méditation, il n'y a rien du tout, tout ça. Donc, quelque part, on ne peut pas juridiquement me tomber dessus, politiquement me tomber dessus, spirituellement me tomber dessus, parce qu'en fait, je ne dénigre personne. Alors, bien sûr, des fois, je cogne un peu quand même sur la religion, on est d'accord, mais bon, j'ai rien contre le pape. Enfin, je veux dire, je l'attaque pas et j'ai rien contre le président de la République. Simplement, je ne fais que dire que tout ça, c'est que la perpétuation d'une civilisation et qui, dans son refus de voir le changement, va tout simplement disparaître naturellement. Donc, point besoin d'être prophète pour simplement dire que la loi de l'évolution prônée dans tous les livres d'histoire et on va dire d'évolution humaine fera que si l'Empire romain s'est écroulé, si l'Empire de Charlemagne s'est écroulé, si l'Empire de Napoléon s'est écroulé, si des civilisations entières ont disparu, c'est parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. Et donc ce que je raconte n'a rien de méchant, c'est simplement juste une réalité. Vont-ils s'adapter? C'est pas moi qui déverse les énergies féminines sur la planète. Alors, ensuite, Colibri, que pensez-vous des crop cycles? Bah, les crop cycles, c'est-à-dire ces fameux dessins qui sont, je dirais, dessinés dans des champs de blé ou des champs à peu près similaires, ne sont simplement que des messages qui nous sont apportés. Mais ces messages sont apportés, bien sûr, fonction de notre capacité de compréhension et vont jouer donc dans différentes dimensions. Donc pour moi, les crop cycles sont des informations aussi valides et aussi valables que les canalisations. Simplement, eh bien, comme partout, il faut avoir une certaine dose de discernement, surtout concernant l'interprétation. Alors, je vous avouerai sincèrement que je cherche pas à interpréter les crop cycles. Quand je regarde, ça me fait du bien. Si ça me fait pas du bien, je passe mon chemin. Et de toute façon, je ne cherche pas à regarder tous les crop cycles qui sont en train de se faire, je dirais, fabriquer à travers le monde. Je sais que c'est tout simplement que des informations, au même titre que ce serait toutes les vidéos de soucoupes volantes ou de points lumineux qui se baladent ou de n'importe quoi. ce ne sont que des informations qui viennent confirmer que nous sommes dans un changement réel. Voilà. Carole, ma question porte sur les énergies descendantes. Depuis la dernière lune, j'avoue être prise d'une grande fatigue au point d'aller me coucher sur l'heure de midi pendant au moins 1h30. Est-ce que les changements énergétiques sont une des conséquences? Y en a-t-il d'autres? Ouais. On a les énergies descendantes, hein, comme tu dis. C'est l'impression qu'elle tombe sur le dos. Ben oui, elle tombe sur le dos, mais c'est pour une raison précise, c'est pour que tu prennes le chemin inverse, hein, c'est-à-dire que tu ascensionnes. Donc c'est juste une poussée logique, hein. On t'envoie la sauce et on espère que bah, tu vas t'alléger et que la montgolfière va décoller. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait effectivement des heures importantes pour aller dormir, parce que, comme dirait l'autre, la carlingue ou la voiture ou le dirigeable, ben il a des contraintes mécaniques importantes. Donc la montgolfière, eh bien, comme dirait l'autre, à fort à mesure qu'on la gonfle, eh bien, ça craque de partout, ça couine de partout, et il faut faire de la réparation. Et la seule méthode de réparation possible actuellement, c'est dormir. Donc que vous dormiez 1h30 le midi, ou que vous allongiez et puis vous en prenez pour 12 heures d'affilée, vous vous relevez et vous en reprenez encore pour 8 heures, vous inquiétez pas, c'est simplement que la mécanique est en train d'être adaptée aux nouvelles pressions et au niveau, aux nouvelles énergies tout simplement. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Alors bien sûr, on peut dire que le yoyotage du visiteur ou du pèlerin qui est à l'intérieur de la montgolfière ou de la bagnole ou de la carlingue, il comprend pas tout ce qui se passe parce qu'effectivement son train-train quotidien, ses références sont relativement bien sûr bousculées. Voilà. Alors Annie dit, depuis le début du mois, j'ai eu l'impression de ne pas tenir debout, je passais mon temps allongé comme tiré par les énergies de la Terre. Est-ce que c'est un effondrement de la magnétosphère? Alors, effondrement de la magnétosphère ou pas, on s'en fout. Pourquoi chercher une raison par rapport à ça? C'est que si tu tiens pas debout, c'est que tout simplement, ton corps te demande, et n'a pas la résistance, entre guillemets, de toujours tenir debout. Donc tu t'allonges. Je rappelle, au passage, que quand vous êtes debout, vous êtes perpendiculaire, on va dire à l'horizontale, c'est-à-dire que vous êtes sur un plan électrique. Alors que quand vous êtes allongé, vous êtes sur un plan magnétique. Le plan magnétique est le plan vibratoire féminin. Donc c'est pour cela que quand vous êtes allongé, vous rêvez, et que quand vous êtes debout, vous oubliez vos rêves. Donc, eh bien, en ce moment, on peut dire que la période de rêve doit être plus importante que la période, on va dire, de veille, tout simplement, vous êtes vertical. Parce que vertical, on l'est beaucoup dans notre mental, et en fait, c'est celui-là qui nous cause le problème. Donc, en se mettant à l'horizontale, nous avons effectivement plus de chances de suivre l'évolution qu'il y a actuellement, parce qu'il faut, tout simplement, couper ce mental. Et, bien sûr, pendant ce temps-là, eh bien, les techniciens, la technique, va pouvoir réparer, je dirais, la carcasse. Donc c'est un ensemble, et donc on se fout de ce qui se passe quelque part au niveau de la magnétosphère, mais c'est vrai que ça a un rapport, puisque quand on dit magnétosphère, c'est qu'effectivement c'est un rapport avec les énergies féminines et l'horizontabilité. Alors, Hippocampe 2012, un être qui a accédé en 7D peut-il revenir s'incarner dans un corps de matière? Complètement. Nous accédons d'une certaine manière, et d'une manière, je dirais souvent inconsciente, à la 7D. Cela ne nous empêche pas d'être en 3D, physiquement parlant. Donc effectivement, quand un être passe en 7D, ça veut dire qu'il a passé l'étape, entre guillemets, du soi inférieur. C'est-à-dire que je vous rappelle que le soi inférieur va de la 1D à la 6D, alors que le soi supérieur est de la 7D à la 12D. Donc la 7D et la 12D, c'est la distance, on va dire, entre la Terre et le Soleil, alors que la 1D et 6D, c'est en fait votre corps physique, hein, c'est-à-dire tout ce qui compose ce complexe mental, enfin on va dire ce complexe qui est mental, corps, esprit. Hein. Donc une fois que vous êtes en 7D, c'est que vous êtes totalement conscient que vous êtes un soi supérieur, et à ce moment-là, vous rematérialisez, entre guillemets, c'est-à-dire vous remettre dans une carcasse est aussi facile que d'aller au supermarché. Je veux dire, vous allez emprunter un véhicule, tout simplement. Donc, oui, vous pouvez vous matérialiser, et même mieux, vous pourrez choisir le véhicule que vous voulez, le transformer à volonté. Hein? Une fois que quelqu'un est arrivé définitivement en 7D, ça veut dire qu'il a la maîtrise totale sur la voiture, et donc la matérialisation de la voiture. En clair, vous êtes donc un informe pouvant prendre n'importe quelle forme. C'est à l'image que vous avez tous les permis de conduire et que pour un délai que vous désirez d'ailleurs, vous pourrez conduire la voiturette, le vélo, la mobylette, mais aussi le 40 tonnes. Voire carrément le SMI avec la remorque derrière et la caravane rattachée à la remorque, etc. quoi. Je veux dire, vous avez tous les permis. Donc vous pouvez prendre tous les véhicules que vous voulez, y compris l'avion, la fusée, tout ce que vous voulez. Donc en 7D, nous pouvons matérialiser notre corps selon notre volonté et selon les besoins, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? De Colibri. Je rêve en ce moment de cristaux. Est-ce important? Nous passons donc en mode cristallin, donc il est normal de rêver de cristaux. Donc, est-ce que c'est important? C'est autant me demander, voilà, il faut faire le plein en gasoil, je passe à la pompe et je vois le gasoil. Oui, bien sûr, c'est important, mais est-ce que c'est toi qui décides de tes rêves? Non, c'est simplement, on te montre que maintenant, tu vas beaucoup mieux fonctionner dans une géométrie cristalline afin de mieux ressentir la vibration qui va bien sûr s'enfermer à l'intérieur de cette géométrie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sally. Attendez, hop. Sally, en référence au cours sur l'horlogerie cosmique, tu peux expliquer l'apprentissage de chaque chakra. Si tu as moins de 28 ans, tu n'as pas encore fait l'expérience du chakra du cœur. Alors, je crois que là, il y a une mauvaise interprétation, entre guillemets, hein, de cette horlogerie cosmique. Je rappelle que nous sommes sur un clavier, un clavier de piano où vous avez 7 octaves. Chaque octave comprend 7 notes. Et ces 7 notes, nous allons les retrouver de toute façon dans chaque octave. Donc dire que nous n'avons pas encore fait l'expérience du chakra du cœur, tu as déjà fait l'expérience du chakra du cœur, parce que quand tu dis 7 fois 4, 28, déjà, hein, ça veut dire que tu as déjà expérimenté par 4 fois le cœur, mais avec une paire de lunettes différentes. Quand on arrive au quatrième chakra, hein, c'est-à-dire de 28 à 35, eh bien, c'est que nous regardons avec la paire de lunettes du chakra du cœur. Bon, on va regarder chaque note. Donc, toutes les notes sont déjà connues. C'est simplement la couleur de ta paire de lunettes qui est différente à chaque fois. Voilà pourquoi il nous faut 49 ans pour faire simplement le tour de l'ensemble des 7 octaves avec les 7 notes. Mais à chaque octave, tu es bien en rapport direct avec chaque note. Ok, donc c'est un processus d'expérimentation et surtout d'intégration. Donc là aussi, je crois avoir écrit suffisamment. Par rapport à ça, parce qu'il y a aussi, je dirais, pas un petit changement, mais disons qu'un approfondissement de ceci, puisque dernièrement, J'ai repris la chose pour refaire quelques dessins plus en accord avec les vibrations de maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que autant avant nous étions bloqués en 3D, c'est-à-dire que quand tu arrivais à 49 ans, tu recommençais comme un enfant, je dirais, premier chakra, enfin premier plan, enfin première octave, première note. D'accord? Aujourd'hui, bien ce premier chakra, première note, va correspondre en fait à la 4D. C'est-à-dire que les 49 premières années sont relatives à l'expérimentation en 3D, tandis que les 49 années suivantes correspondent en fait à l'évolution en 4D. Tout simplement. Donc il y a bien sûr une répétition je dirais, du clavier, sauf que nous passons dans avec un deuxième clavier, c'est-à-dire celui de la 4D. Donc je ne n'irai pas trop dans le détail maintenant, hein, puisque l'heure tourne, et cela sera peut-être, je n'en sais rien, détaillé un jour plus profondément, car effectivement, j'ai toujours regardé cette horloge cosmique avec attention. Et effectivement, c'est ce qui se passe actuellement dans ma vie, mais je ne vais pas dire au jour près, mais presque. Donc, la progression que nous suivons en termes d'élévation de notre fréquence est directement proportionnelle à la paire de lunettes que nous avons bien sûr sur le nez. Voilà pourquoi il est difficile à chacun de comparer ses propres expérimentations avec ceux d'une autre personne, parce que nous n'avons pas forcément le même âge. Et donc nous ne sommes pas forcément dans la même période, on va dire, et donc dans la même coloration de la paire de lunettes. Il est clair que si je regarde plus près les gens qui rentrent en résonance avec ce que je raconte, hein, eh bien, ils sont beaucoup plus dans une tranche d'âge proche de moi. En majorité. Hein, en majorité. C'est-à-dire que plus nous avançons, plus nous voyons que, on peut dire, la courbe de Gauss s'élargit, hein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui maintenant rentrent en résonance avec ce que je raconte. Mais quand j'ai commencé à écrire mes blogs il y a un peu plus de 5 ans, enfin ça fera bientôt 6, eh bien, je dirais, on était pratiquement tous dans le même octave. Avec plus ou moins un demi-octave d'avant et un demi-octave d'après. Aujourd'hui, ce que je raconte intéresse maintenant beaucoup plus d'octaves. C'est-à-dire que les musiciens qui viennent regarder ce que je raconte commencent à rentrer en résonance beaucoup plus tôt que ce qui était avant. Mais ceci est dû bien sûr à ce que les nouvelles générations sont moins, on va dire, handicapées que nous, les anciennes. Voilà.